Chers frères et sœurs qui êtes ici présents, chers frères et sœurs malades, quand les frères Carmes ont reçu la responsabilité d'animer cette neuvaine, ils ont choisi de s'appuyer sur une lettre récente du pape François, octobre 2023, consacrée à Sainte Thérèse de Lisieux à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance. Elle est née en janvier 1873. Le titre de cette exhortation du pape François est « C'est la confiance ». Il me revient aujourd'hui et demain d'introduire à ce thème, et les frères qui se succéderont choisiront chacun un passage ou un thème de l'exhortation du pape pour, à partir de là, nous aider à entrer plus profondément dans le mystère de Dieu, avec l'aide fraternelle de notre sœur Sainte Thérèse. Comme préalable à ces méditations, je vous invite à un petit exercice personnel très libre, prendre quelques instants pour considérer chacun, chacune, quel est le but ultime de notre existence. Autrement dit, qu'est-ce que je désire par-dessus tout ? Alors, ça pourrait être la paix dans le monde et le salut de l'humanité, mais faisons peut-être l'exercice de le penser pour moi-même. Si j'avais quelque chose à demander pour moi-même, qu'est-ce que je désirerais par-dessus tout ? Ce qui peut nous y aider, c'est peut-être de nous mettre à la place, vous savez, de l'aveugle Bartimée à qui Jésus dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Supposez que Jésus vous dise « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» mais que vous avez une seule possibilité. Une fois que vous l'auriez épuisée, il n'y en aurait plus d'autres. Donc, nous serions chacun, chacune, amenés à réfléchir à ce que nous désirons par-dessus tout pour nous-mêmes. Donc, je vais me taire quelques instants pour que nous puissions laisser monter en nous notre désir le plus profond. Peut-être que rien ne viendra, peut-être que des mots viendront, nous verrons. Juste quelques instants. Voilà, je ne vais pas vous demander, ça serait intéressant, mais ce n'est pas très possible, ce qui est venu, sans doute que ce qui est venu a à voir bien sûr avec le bonheur, peut-être aussi avec la sainteté, peut-être que des expressions fortes comme « voir Dieu » ou « la vie éternelle » sont venues, je ne sais pas, mais ce que je vous invite à faire maintenant, c'est à vous interroger sur le moyen principal à votre disposition pour réaliser ce désir. Encore quelques instants de silence pour réfléchir à cela, et ça va nous préparer à entrer dans cette neuvaine. Voilà, peut-être que nous sommes davantage prêts maintenant à entendre les premiers mots de l'exhortation du pape François, c'est la confiance. Et ces premiers mots, c'est une phrase de Sainte Thérèse. Je la lis, je la laisse résonner, je ferai un petit mot de commentaire et ensuite je dirai les paroles que le pape prononce immédiatement après. Vous allez voir qu'elles sont assez étonnantes. Thérèse dit, c'est la confiance. Et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. L'amour avec un A majuscule. Donc vous voyez, pour Thérèse, c'est clair, le but ultime, c'est l'amour. C'est comme ça qu'elle en parle. Au moins ici, très souvent, elle le fait ainsi. À d'autres moments, elle va dire la sainteté, par exemple. Mais ici, elle nous propose de considérer le but ultime de l'amour avec un grand A. Et vous avez entendu le moyen, c'est la confiance. Et rien que la confiance. Pour elle, il y a un seul moyen, la confiance. Vous voyez que ce sont des paroles étonnantes. Peut-être que le plus étonnant, c'est le « rien que ». La confiance, nous y sommes habitués en tant que chrétiens, puisque la foi, c'est une confiance fondamentale. L'amour, nous savons qu'il est au cœur du mystère chrétien. Mais est-ce que nous sommes persuadés que c'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour? En tout cas, le pape François nous propose de prendre très au sérieux ces paroles, puisqu'il dit, immédiatement après avoir cité cette phrase, « Ces paroles très fortes de sainte Thérèse, de l'enfant Jésus et de la sainte face, écoutez bien, disent tout. » Il ajoute, « Elles résument le génie de sa spiritualité et, écoutez encore, suffiraient à justifier qu'on l'ait déclaré docteur de l'Église. » Bon, c'est peut-être un tout petit peu exagéré, parce que si elle n'avait dit que cela, on n'aurait sans doute pas pensé à la déclarer docteur, mais cette phrase veut nous faire dire qu'il y a là non seulement le cœur du message de Thérèse, mais qu'il est tellement important et d'une certaine manière tellement nouveau, sans être absolument nouveau, que toute l'Église a besoin de l'écouter. C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. Ces paroles très fortes, je redis, de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face disent tout, elles résument le génie de la spiritualité, de sa spiritualité, et suffiraient à justifier qu'on l'ait déclaré docteur de l'Église. Alors ce que nous allons faire ensemble, aujourd'hui et demain, c'est laisser cette phrase de sainte Thérèse, cette parole, pénétrer en nous, espérons-le, nous transformer, nous éclairer, et pour cela, il nous faut la situer dans son contexte. Alors, le contexte immédiat de cette parole, c'est une lettre qui tient sur une petite feuille comme ceci, vous voyez, écrite d'une écriture serrée, sur une page et la moitié ou les deux tiers de l'autre, c'est tout petit, que Thérèse a écrit à toute vitesse et qui est peut-être la page la plus brûlante de toute son œuvre et sans doute aussi une des pages de la spiritualité chrétienne les plus profondes, les plus importantes. Alors je vous le dis tout de suite, si vous êtes curieux de pouvoir lire cette lettre, vous pouvez la trouver facilement sur Internet en cherchant par exemple Thérèse de Lisieux, lettre, c'est la seule chose à retenir, 197, la lettre 197. Vous la trouverez par exemple sur le site du Carmel en France ou bien sur le site des archives du Carmel de Lisieux. C'est vraiment un trésor. Je vous invite à en bénéficier, la lettre 197. Alors ce que je ferai, c'est que je donnerai de la place aux paroles mêmes de Thérèse. J'essaierai de nous aider à les comprendre en les situant et à les accueillir pour qu'elles nous aident concrètement dans notre vie de foi. Quel est le contexte de cette lettre? Cette lettre, Thérèse l'écrit un an avant sa mort, mois pour mois, en septembre 1896. Elle a déjà 23 ans, mais seulement 23 ans, vous voyez. Et c'est un moment de sa vie qui correspond à une forme de bascule depuis quelques mois, puisque au moment de la Pâque précédente, donc en avril 1996, elle a connu deux événements inattendus. Le premier, c'est que le Vendredi Saint, elle découvre qu'elle est atteinte d'une maladie grave, elle crache du sang. Cette maladie est suffisamment avancée en septembre, au moment où elle écrit la lettre, pour qu'elle pense déjà à la mort, qui surviendra en fait un an plus tard, d'une part, et d'autre part, pratiquement immédiatement après, le jour de Pâques, Thérèse, qui jusqu'ici se réjouissait à l'idée du ciel, et la perspective de la mort prochaine ne faisait qu'augmenter cette joie, Thérèse découvre que, subitement que la pensée du ciel, donc de la vie après la mort, devient un sujet de tourment terrible. Elle n'avait jamais connu cela, et voici que maintenant, constamment, et jusqu'à son dernier souffle, cette pensée ne peut plus la soutenir, parce que quand elle pense au ciel pour essayer de se donner du courage, eh bien, elle entend une voix intérieure qui lui dit « avance, avance, et au lieu de trouver le ciel, tu trouveras la nuit du néant, une nuit encore plus radicale que celle où tu es plongé maintenant », et qu'elle compare à un brouillard très épais, ou parfois, image encore plus terrible, à un mur qui se dresse devant elle et qui monte jusqu'au ciel et qui lui cache les étoiles. Donc Thérèse n'a que la fraîcheur de ses 23 ans, mais aussi vit ce drame, ce double drame de la maladie et de ce qu'on appelle l'épreuve de la foi ou de l'espérance que j'ai essayé de décrire. Elle vit cela peu de temps après avoir fait une expérience extrêmement forte, en gros l'année d'avant, en juin 1895. Cette expérience extrêmement forte, c'est celle d'avoir reçu l'inspiration, le jour de la fête de la Sainte Trinité, de s'offrir à l'amour miséricordieux du Seigneur. Elle avait entendu dire que certaines personnes s'offraient en victime, c'est étrange, à la justice de Dieu. L'idée était charitable, l'idée c'était que les pécheurs, les grands pécheurs méritaient un châtiment et que par amour pour eux, on demandait à la justice de Dieu de châtier non pas les pécheurs, mais nous-mêmes, les personnes qui s'offraient à la justice de Dieu. Et Thérèse sent dans son cœur que ce n'est pas pour elle. Elle se dit, mais on pense beaucoup à la justice de Dieu, on la craint, mais sa miséricorde, elle la voit comme une réserve d'amour en quelque sorte qui est dans le cœur de Jésus, comme comprimée en lui, et que lui désire la répandre. Elle dit, il cherche partout des âmes qui voudraient l'accueillir. Votre amour miséricordieux, dit-elle, est méconnu, il est rejeté. Les cœurs auxquels vous désirez le prodiguer se tournent vers les créatures, leur demandant le bonheur avec leur misérable affection, au lieu de se jeter dans vos bras et d'accepter votre amour infini. Elle comprend que, elle qui veut aimer Jésus, que la meilleure manière d'aimer Jésus, de lui faire plaisir, comme elle dit, c'est de le laisser nous aimer, de le laisser nous transformer, nous enflammer par le feu de son amour. C'est pourquoi elle dit, « Il me semble que si vous trouviez des âmes, des personnes, s'offrant en victime d'holocauste à votre amour, alors on peut traduire pour aujourd'hui, s'offrant pour être totalement embrasé par votre amour, vous les consumeriez rapidement, vous les embraseriez rapidement du feu de votre amour. Vous seriez heureux de ne point comprimer les flots d'infinie tendresse qui sont en vous. » Et que fait Thérèse ? Eh bien, elle s'offre à l'amour miséricordieux. Elle écrit une prière qui dit son désir et même son acte d'offrande, sachant que le but pour elle à l'époque, c'est la sainteté. C'est la sainteté. Elle ajoute aussi, je désire être sainte, je désire vous aimer et vous faire aimer. Et afin de vivre dans un acte de parfait amour, voilà le but pour elle, souvenons-nous, hein, c'est par la confiance et rien que par la confiance que nous parviendrons à l'amour. Eh bien, afin de vivre dans un acte de parfait amour, je m'offre comme victime d'holocauste, donc comprenons, je m'offre pour être totalement embrasé, je m'offre comme victime d'holocauste à votre amour miséricordieux, vous suppliant de me consumer sans cesse. Donc vous voyez, pour Thérèse, l'amour c'est comme un feu, non pas un feu qui détruit, mais un feu qui éclaire, qui réchauffe, qui donne le dynamisme pour être des personnes qui aiment en acte et pas simplement en parole, qui sont, comme elle dit, transformées en flammes d'amour. Voilà un petit peu le contexte de Thérèse. Elle a vécu en 1895 cette expérience lumineuse de découvrir combien Jésus désire être aimé, c'est-à-dire désire qu'on accepte son amour miséricordieux. Et puis, pratiquement un an après, en 96, elle est plongée dans l'épreuve, dans la nuit. La lumière ne disparaît pas, la lumière de l'amour est toujours très brillante dans sa vie, mais la foi est profondément éprouvée. Et c'est dans ce contexte qu'en septembre 1896, déjà malade, elle fait une retraite personnelle, comme les carmélites avaient l'habitude de le faire, et elle est déjà suffisamment malade pour qu'on se demande si ce ne serait pas peut-être sa dernière retraite. Et de fait, ça va être sa dernière retraite personnelle. Et voilà que pendant cette retraite, son immersion, pourrait-on dire, dans le mystère de l'amour de Dieu va encore plus profondément, et qu'elle écrit un texte. Ce texte, on l'appelle le manuscrit B, peu importe, vous pouvez le trouver sur Internet sous ce nom, le manuscrit B, dans lequel elle dit son amour pour Jésus, c'est son immense désir de mourir martyr pour Jésus, pour les hommes, et elle détaille tous les désirs qui la travaillent intérieurement, au point qu'elle souffre le martyr de ses désirs. Voilà. Je vais revenir sur cela. Toujours est-il que ce document assez long qu'elle a rédigé, elle choisit de l'envoyer à une de ses sœurs carmélites, qui est aussi sa sœur aînée de la famille Martin, du même Carmel de Lisieux, en réponse à une demande de celle-ci, Marie, elle s'appelle Marie, de lui laisser un souvenir de sa retraite, parce que Marie est consciente que sa petite sœur, Thérèse, vit quelque chose de tellement lumineux et profond qu'il faut en profiter tant qu'elle est là. Et donc Thérèse lui envoie ces pages brûlantes d'amour pour Jésus, des pages dans lesquelles elle dit, je ne peux pas ici vous les relire entièrement, elle dit son désir notamment de mourir martyr. Et voici que ces pages produisent en Marie qui les reçoit un effet un petit peu étrange. C'est que d'un côté, Marie est très contente de voir sa sœur ainsi envahie par l'amour de Dieu, et en même temps, elle a une grande difficulté qu'elle lui formule de la façon que je vais dire en la lisant, et qui pourrait bien aussi être notre difficulté personnelle. Voici ce qu'elle dit à Thérèse. « Petite sœur chérie, j'ai lu vos pages brûlantes d'amour pour Jésus. » C'est ce manuscrit B dont je vous ai parlé, qu'on trouve dans l'histoire d'une âme. Alors elle ajoute « Je suis bien heureuse de posséder ce trésor et bien reconnaissante envers sa petite fille chérie, ma petite fille chérie, qui m'a dévoilé ainsi les secrets de son âme. » Elle ajoute, comme le jeune homme de l'Évangile, un certain sentiment de tristesse m'a saisi devant vos désirs extraordinaires du martyr. Vous vous souvenez, le jeune homme de l'Évangile, c'est celui qui dit à Jésus, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Pour lui, le but le plus désirable, c'est la vie éternelle. Voilà. Et Jésus lui dit, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Et le jeune homme s'en va tout triste. Eh bien, quand Marie, qui demande à Thérèse de lui dire ses secrets pour aimer Jésus, on pourrait dire pour avoir la vie éternelle, quand elle reçoit la réponse de Thérèse, elle se sent un petit peu comme le jeune homme riche. Un certain sentiment de tristesse m'a saisi devant vos désirs extraordinaires du martyr. Alors, où est le problème? Elle ajoute. « Voilà bien la preuve de votre amour. Oui, vous le possédez, l'amour. Mais moi, non, jamais vous ne me ferez croire que je puis atteindre à ce but désiré. » Vous voyez, Marie est comme nous, sans doute, nous avons un but que nous désirons, mais elle se dit « c'est impossible pour moi. Toi, Thérèse, tu peux, je vois que tu es en route, mais moi, je ne peux pas. Pourquoi ?» Elle le dit. « Car je redoute tout ce que vous aimez. » On pourrait traduire « J'ai peur de tout ce que vous aimez, j'ai peur du martyr, voire je déteste le chemin que vous voulez emprunter. » Alors elle ajoute « Voilà bien une preuve que je n'aime pas Jésus comme vous. Ah, vous dites que vous ne faites rien, que vous êtes un pauvre petit oiseau chétif. » Parce que dans ce texte que je n'ai pas pu lire, Thérèse se décrit comme un petit oiseau qui essaye de s'envoler vers le soleil de l'amour, et en comparaison des aigles qui volent avec facilité, les grands saints, elle a l'impression qu'elle est totalement incapable, impuissante, comme elle dit. Alors, Marie dit, d'accord, vous dites que vous êtes comme un petit oiseau. Moi aussi, sous-entendu, j'en suis un. Moi aussi, je suis incapable de voler. Mais elle ajoute, mais vos désirs, pourquoi les comptez-vous? Le bon Dieu, lui, les regarde comme des œuvres. Vous voyez, le problème de Marie, qui est peut-être le nôtre, c'est que nous n'avons pas très envie de mourir martyr, peut-être. Ou peut-être que, sinon dans la vie de Thérèse, au moins dans la vie d'autres saints ou dans les pages de l'Évangile, nous découvrons des situations, des choses, des expériences intérieures que ceux qui nous devancent sur le chemin vers Dieu ont connues et dont nous ne voulons pas ou que nous craignons. C'est exactement le problème de Marie. Alors elle ajoute quelques paroles que je ne vais pas lire, et puis elle finit par dire, « Eh bien, vous êtes possédé par le bon Dieu, mais possédé, ce qui s'appelle, absolument comme les méchants le sont du vilain. » Voilà, elle constate que sa petite sœur a vu se réaliser en elle ce qu'elle avait désiré, être embrasée par l'amour miséricordieux. Elle s'est offerte à cet amour. Et voilà ce que dit Marie, « Je voudrais bien être possédée aussi, moi, par le bon Jésus. » Alors, chers frères et sœurs, si nous aussi nous désirons être, c'est peut-être pas notre expression spontanée, possédés par le bon Jésus, enflammés de son amour, réaliser le but ultime de notre vie, comment faire? Comment bien comprendre ce que Thérèse a à nous dire à ce sujet? Autrement dit, si nous sommes à peu près au clair sur le but, quel va être le moyen? Alors là, Thérèse répond rapidement à sa sœur, elle n'a pas beaucoup de temps, et elle écrit cette lettre, la lettre 197, dont je vous ai parlé en commençant, et qui contient cette phrase par laquelle le pape François commence son exhortation, « C'est la confiance, et rien que la confiance, qui doit nous conduire à l'amour. » Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons commencer à découvrir cette lettre. Il me reste quelques minutes pour en parler, et demain, si vous êtes là ou si vous voulez regarder sur Internet, nous essaierons ensemble d'entrer dans la profondeur de cette lettre, qui encore une fois est très brève. Vous voyez, je vais vous montrer, ça tient sur ça et ça. C'est tout petit, mais c'est très très dense. Alors, souvenons-nous, hein, Marie dit, vous êtes possédé par le bon Dieu, moi je voudrais bien être possédé par le bon Dieu, mais je ne peux pas parce que tout ce qui vous attire, tous vos grands désirs, je ne les ai pas, ça me fait peur, je n'en veux pas. Et alors la Thérèse, on pourrait presque dire, se fâche un petit peu. Elle commence ainsi, sa lettre. « Ma sœur chérie, je ne suis pas embarrassée pour vous répondre. » Peut-être qu'on pourrait se dire qu'elle nous parle à nous maintenant, parce que nous aussi, peut-être que nous avons un problème. Voilà. « Je ne suis pas embarrassée pour vous répondre. Comment pouvez-vous me demander s'il vous est possible d'aimer le bon Dieu comme je l'aime ?» Comment vous pouvez me demander ça? C'est possible pour vous, Marie, mais c'est possible aussi pour nous. Thérèse en est convaincue, c'est ça le cœur de son message. Alors elle va répondre maintenant à la difficulté de Thérèse, de Marie. « Moi, Marie, je n'ai pas ces désirs extraordinaires du martyr que vous avez. » Alors voici ce que dit Thérèse. Si vous aviez compris l'histoire de mon petit oiseau, celui qui n'arrive pas à s'envoler, Thérèse se sent impuissante par elle-même à rejoindre le feu de l'amour de Dieu. Si vous aviez compris l'histoire de mon petit oiseau, sous-entendu, vous ne l'avez pas comprise. Et il nous faut du temps peut-être pour comprendre ce que Thérèse a à dire, et parce qu'il nous faut du temps pour comprendre ce que l'Évangile, ce que Jésus a à nous dire. Si vous aviez compris l'histoire de mon petit oiseau, vous ne me feriez pas cette question. Regardez ce qu'elle dit. Elle pourrait se glorifier. Elle a 23 ans, elle sait qu'elle va mourir, elle a des désirs immenses du martyr, et ainsi de suite. Elle dit, « Mes désirs du martyr ne sont rien. Ce ne sont pas eux qui me donnent la confiance illimitée que je sens en mon cœur. » Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous dire en substance quelques éléments de ce que Thérèse dit, et puis demain, nous lirons phrase par phrase cette lettre en la commentant. Ce qu'elle va dire dans la suite, c'est qu'en fait, ce qui fait qu'elle a une confiance illimitée, que son désir d'être transformer en amour, comme elle dira à la fin de la lettre, ce qui lui donne la confiance que cela pourra se réaliser, ce n'est rien du tout de ce qu'elle peut trouver en elle, ni ses désirs, ni ses vertus, ni ses belles pensées, rien du tout. Elle dit, c'est une phrase clé, « Je sens bien que ce n'est pas cela du tout qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme. » Qu'est-ce qui lui plaît? Et qu'est-ce qui plaît à Dieu dans notre âme à nous? Je vais terminer par là, sachant que nous gardons en mémoire qu'un peu plus tard dans la lettre, Thérèse dira cette phrase « C'est la confiance, et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. » Mais à ce stade, elle dit ceci. « Ce qui plaît au bon Dieu dans ma petite âme, autrement dit, ce qu'il cherche en nous maintenant, ce qu'il désire y trouver, c'est, écoutez bien, j'essaye d'écouter aussi, de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté. » C'est à peu près le contraire de ce que nous faisons habituellement. Notre petitesse et notre pauvreté, nous ne l'aimons pas, nous cherchons à la cacher aux autres, peut-être à nous la cacher à nous-mêmes. C'est de me voir aimer ma petitesse et ma pauvreté, c'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. Parce qu'elle comprend que petitesse, pauvreté, et nous pourrions ajouter difficulté, malheur, impression d'être englué dans les difficultés morales, spirituelles, tout ce que vous voulez, même les choses les pires. Elle comprend que cela, c'est ce qui attire l'amour de Dieu. Nous, nous avons l'impression que ça lui répugne, que ça fait que nous sommes moins aimables à ses yeux. Mais elle comprend que c'est cela qui l'attire. C'est ce qui plaît au bon Dieu, c'est l'espérance aveugle que j'ai en sa miséricorde. La miséricorde, elle est pour ceux et celles qui, justement, ont l'impression que rien n'est possible. Et elle ajoute, et ça sera la phrase conclusive de ce soir, « Voilà mon seul trésor. » Voilà mon seul trésor. Donc son trésor, ce ne sont pas ses grands désirs, ce n'est pas ses vertus. Non, voilà mon seul trésor. Pourquoi ce trésor ne serait-il pas le vôtre ?